Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et oui, fin de semaine de la Saint-Valentin. Pour cette nouvelle édition du deuxième service. Avec Bayergeon avec vous pour la prochaine heure. Sur les ondes de CFAC 88.3 et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Bon, on pourrait faire plusieurs blagues d'amour qu'on ne retrouve pas particulièrement, entre autres, dans les relations canado-américaines des dernières semaines. L'histoire d'amour entre les gens fâchés contre Justin Trudeau et Pierre Poilievre qui se rendent compte que c'est pas assez juste de dire que tout est de la faute à Trudeau. D'aussi devoir abandonner son slogan fétiche à Pierre qui a répété depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il est à la tête de son parti depuis 2 ans que le Canada est brisé, détruit, qu'il croule, qu'il est dans la désuétude, mais qu'au final, dans les dernières semaines, ou plutôt dans les derniers jours, c'est maintenant le Canada d'abord, Canada first. Ce n'est plus axe de taxe non plus. Tout a été réparé miraculeusement depuis les attaques de Donald. Et qui aurait cru qu'à cause de Donald Trump, cette histoire d'amour entre Canadiens soit renforcée, soit améliorée, à tout le moins. Je fais des blagues. Mais évidemment que ce sentiment d'union canadien-là existe parce qu'il y a une attaque extérieure à celle de Donald Trump. Et qui est quand même majeure. Une journée des taxes, l'autre journée plus de taxes. Une journée, ça prend du monde à la frontière, l'autre journée, ça prend du monde au nord. Parce que cette semaine, Pierre Poilievre, constatant que tous les premiers ministres des provinces et territoires, sauf un, étaient à Washington, à gros frais, en plus, semble-t-il, Pierre, lui, ne se laissait pas abattre et est monté au Nunavut pour annoncer que nous aussi, on laisserait tomber l'aide humanitaire, comme ils font aux États-Unis. Nous aussi, au Canada, on va arrêter l'aide humanitaire dans le monde et on va construire une base militaire dans le Nord. Autant que possible. Clin d'œil. Donc, pendant que, et ça, c'est plusieurs analystes qui l'ont souligné, pendant qu'on a un problème à la frontière sud, Poilievre se préoccupe de la frontière nord. Donc voilà, il ne sait plus où donner de la tête, ce pauvre Pierre. Et peut-être que l'une de ces raisons-là réside dans le fait que, comme on le disait, Justin Trudeau a été forcé de quittera dans les prochaines semaines, puisque d'ici le début mars, la première semaine de mars, on découvrira qui sera le prochain premier ministre. À quelques détails près, la prochaine première ministre, on peut d'ores et déjà dire que Mark Carney sera un peu couronné comme prochain chef. Quoique, il y aura peut-être un revirement de situation qu'on ne verra pas venir d'ici là, qui fera en sorte que Mark Carney serait disqualifié, mais c'est pas du tout parti pour ça. Et notamment, ce qui force Pierre Poilievre à arrêter de dire que tout va mal au Canada et qu'il faut couper les taxes et que maintenant, le Canada est un grand pays et il faut s'unir, ben c'est que dans les derniers sondages pan-canadiens, et c'est ça qui est fascinant dans ces chiffres-là, c'est que si les élections avaient eu lieu au courant des derniers jours, ben c'est Mark Carney qui serait devenu officiellement premier ministre minoritaire d'un gouvernement libéral suite à celui de Justin Trudeau, malgré toutes les attaques de Pierre Poilievre. De plus en plus de sondages réduisent l'écart des conservateurs contre l'écart du Parti libéral du Canada. Si pendant le début de l'année, on avait des écarts de 16 points, voire 13 dans certains cas, entre la première et la deuxième place, ben ça a déjà fondu à du 6, à du 8 et du 9 points d'écart entre les intentions de vote des deux principaux partis. Et même en sous-question, parce que ça, c'est vraiment seulement la question si des élections fédérales avaient lieu, pour quel parti voteriez-vous? Mais lorsqu'on met des noms associés à ces partis-là, le Parti libéral de Mark Carney, le Parti conservateur de Pierre Poilievre, un de ces sondages-là révélait un 37-37. Une égalité à la première place qui, normalement, avec le vote des indécis, favorise habituellement le Parti libéral du Canada. Donc, une victoire de Mark Carney en n'étant pas encore choisi, en ne sachant pas encore c'est quoi sa plateforme, il est capable d'accoter Pierre Poilievre et plus ça avance, plus il est en train de le dépasser. Beaucoup vont dire « Oui, mais justement, on ne sait pas sa plateforme, on ne sait pas c'est quoi ses idées, on ne sait pas de quoi il va parler. » À ça, on peut leur dire que Pierre Poilievre, on ne sait pas trop sur quel chemin il s'en va non plus. T'sais, jusqu'à temps que Donald Trump soit élu, c'était axe de taxe, Canada is broken, Justin Trudeau, c'est le mal incarné. Et là, coup sur coup, Trudeau est parti, les États-Unis deviennent une menace. Et de baisser les taxes, ça devient de moins en moins une priorité. Fait que du jour au lendemain, le peu de plateformes et d'idées que Pierre Poilievre avait à mettre de l'avant se sont carrément effondrées devant ses yeux. D'où pourquoi maintenant son nouveau slogan de podium, c'est Canada first, Canada d'abord. Et ça, c'est un virage qui est extrêmement difficile à faire pour lui parce que justement, ça fait des mois et des mois qu'il répète à qui veut l'entendre que l'entièreté des problèmes au Canada, c'est parce qu'on est tous unis ensemble, que le Canada est brisé d'un État à l'autre, d'un océan à l'autre, coast to coast, le pays est brisé. Parce que Justin Trudeau était la pire plaie à n'avoir jamais existé sur Terre. Essentiellement, c'était ça, son discours. Qu'est-ce qu'il va faire en santé, aux frontières, en environnement? Qu'est-ce qu'il va faire? On a des bribes une fois de temps en temps. Mais c'est tout. Parce qu'il avait, en plus, de son côté, l'usure du pouvoir libéral. Mais là, comme j'ai mentionné dans les autres émissions, mais là, ça s'en vient de plus en plus clair que la véritable question de l'urne ne sera pas la baisse de taxes aux particuliers ou le redressement des finances canadiennes. Ça va être qui sera capable de tenir tête à Donald Trump, qui va faire en sorte qu'il va arrêter de nous appeler le 51e État et où le gouverneur du Canada, comme il l'a encore répété hier soir en parlant de Justin Trudeau, parce que dans sa tête à lui, il veut annexer le Canada. Pour quelle raison? Mégalomanie, on ne le sait pas. Il n'y a pas de réelle bonne raison pourquoi le Canada devrait se laisser conquérir par les États-Unis. Donald Trump a dit sans rire que notre système de santé serait meilleur en étant un État américain et qu'on aurait une armée plus forte. Lui, ses arguments, c'est ça. C'est que pour lui, notre système de santé n'est pas bon, mais l'insuline ne coûte pas 600 piastres à toutes les semaines US aux États-Unis, tu sais. Ou juste entrer dans un hôpital, c'est gratis au Canada. Comparativement, c'est ça. Lui, il se pense... En fait, beaucoup de commentateurs américains aussi disent « C'est un honneur que vous faites Donald Trump de vouloir vous avoir avec nous autres. » Ce qu'il dit pas, par exemple, c'est qu'il ne donnerait pas de pouvoir au Canada. Oui, on serait un État américain dans son monde idéalisé, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on aurait du pouvoir autour de la table de négociation. Il n'y a pas de place pour une 51e étoile sur le drapeau. Il y a des gens qui faisaient la joke qu'il faudrait annexer les deux Dakota pour faire une place pour le Canada, mais c'est pas vrai que Donald Trump va donner des sénateurs et des représentants à la Chambre des représentants aux Canadiens. Parce qu'on serait un État démocrate. Pas assez pour faire renverser la victoire. Mais disons que tout le Canada, avec les États de l'Ouest et les États de l'Est qui sont bleus, ça donne une espèce de gros rond bleu au-dessus de ce rouge central américain-là. Ça serait comme un chapeau bleu. Mais à la dernière élection, voilà, on n'aurait pas eu, au prorata, au pourcentage de la population, on n'aurait pas fait une différence si significative là pour le nombre de représentants à la Chambre principale. Sénateur, on aurait égalisé, je pense que c'est un ou deux que le Canada aurait, fait qu'on égaliserait les 52 qui ont en ce moment bleu. Mais sinon, il aurait perdu pour la troisième fois de suite le vote populaire parce que les Canadiens n'auraient pas voté pour lui de façon... en fait, le million de votes que les Canadiens auraient enregistré, il aurait été du bord à Kamala en très grande majorité. Tu sais, pendant la campagne, c'était du 80-20 pour Kamala Harris. Fait que ça y aurait fait perdre le vote populaire essentiellement. Mais voilà. Donc, rien ne va plus pour le Parti conservateur, voilà, qui menait jusqu'à tout récemment. Les sondages tendent tranquillement pas vite à diminuer l'écart entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Évidemment, il va y avoir une variante qui va s'appeler les élections. On verra bien ce qui va y en être, parce qu'en plus de devoir prendre du jour au lendemain la position de premier ministre, ben, il y a une campagne électorale qui va être déclenchée le plus rapidement possible. Et les conservateurs n'attendent que ça, retourner en chambre pour être capable de défaire le gouvernement libéral. Autant le NPD cette semaine a lui aussi dit que si Mark Carney était mis à la tête du Parti libéral, ils y déclencheraient des élections le plus rapidement possible. Donc, au moment de la réouverture de la Chambre et ou au dépôt d'un budget temporaire Carney pour juste jeter finalement la base électorale libérale de la prochaine campagne électorale. Mais en ce moment, oui, la Chambre est prorogée, mais on le sait, dès que la Chambre va être réouverte, dès qu'il y aura possibilité de placer une période de vote, ben, ça va être soit déposé par les conservateurs ou le NPD, mais on s'en va en campagne électorale d'ici le mois d'avril. Mai au plus tard, mais on est en campagne électorale fédérale, assurément, ce printemps. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on a une date. Ça, c'est peut-être le plus clair. Maintenant, on a une date qu'on peut officialiser parce que là, on ne se rendra pas à l'automne. Ça, c'est complètement impossible. Mais voilà. Donc, on verra bien de quoi ça aura l'air dans les prochaines semaines. On verra bien comment la situation va être extrêmement changée parce que il n'y a plus de marge de manœuvre. Littéralement, les conservateurs sont en train de perdre toute l'avance qu'ils avaient parce que, justement, il n'y avait pas de plan B. À part de dire que tout va mal, il n'y avait pas de réel plan B au discours qu'ils tenaient. Ce pourquoi, maintenant qu'ils doivent arriver avec de vraies idées, parce qu'il y a un problème assez majeur niveau international, qui va affecter de toute façon l'économie locale également, ben ça fait en sorte qu'on change complètement. Comme quoi, une semaine en politique, il peut se passer plein d'affaires, ben là, on a l'exemple. Ça change du jour au lendemain, incapable de faire des prévisions à cause d'un Donald Trump qui est totalement imprévisible. Qui plus est, ben, comme on n'est pas capable d'y aller jour par jour, ben, il faut improviser, quasiment. Faut se fier. Là, il y en a qui disent qu'il faut lui donner raison. Bien sûr que non, mais on en est rendu là. Donc, voilà. On fait une courte pause. Au retour, on continue à parler de cette actualité de la semaine ici sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3. Tire le coyote. Nouveauté qu'on vient d'entendre en musique. La liberté, c'est de suivre le plan. Parlant de plan à suivre, mon Dieu, lien totalement improvisé. Parlons du troisième lien. Ça faisait un petit moment. Surprise! Faire un pont à l'est, comme on le voudrait le plus, donc faire un pont au niveau de Sainte-Anne-de-Beaupré, de l'île d'Orléans, etc., ce n'est pas de bon plan. Le ministère du Transport le confirme avec des documents à l'interne, dont notamment Radio-Canada a obtenu copie. La construction d'un pont à l'est des centres-villes de Québec et de Lévis contreviendrait à la quasi-totalité des orientations gouvernementales en matière d'aménagement et de territoire. Donc, avec à même, en fait, je devrais dire, leurs propres ressources, ce n'est pas un projet qui a de l'allure. On se souviendra que dans les derniers épisodes... Bruno Marchand se faisait retirer le projet des mains par Geneviève Guilbeault qui disait « M'a le faire mouer ». En disant « M'a le faire mouer », elle a garoché la patate chaude dans les mains de CDPQ Infra. CDPQ Infra, eux, ils ont fait du transport en commun à coût de très grands financements du côté de Montréal. À Montréal, eux, c'était plus dans l'optique d'être une business, donc d'être rentable. On leur demande « Prouvez-nous que le troisième lien est une bonne chose. » Subtilement, on demande « Trouvez-nous les meilleurs projets possibles. » Bernard Drainville vend la mèche en disant que la CDPQ Infra va leur donner raison. Coup de théâtre. Été dernier, la CDPQ Infra ne donne pas raison à la CAQ, dit que ce ne sont pas des projets qui vont valoir la peine pour sauver 5 à 10 minutes dans le trafic. Peut-être, c'est pas sûr, parce que de toute façon, le trafic serait juste transféré d'un pont à l'autre. Et donc, pour une économie de temps qui n'en vaut pas tant que ça, 10 milliards, c'est trop cher à payer. Réaction le lendemain, François Legault dit « Parfait, on a bien tenu compte des recommandations de la CDPQ, donc il y aura un tramway et il y aura un troisième lien. » Donc, électoralement parlant, Geneviève Guilbeault et François Legault conviennent qu'il y aura, oui, bon, un tramway à Québec, là, c'est correct. Et il y aura surtout un troisième lien entre Québec et Lévis. En décembre dernier, voilà où on arrive avec ce nouveau chapitre, les documents de travail pour essayer de trouver un début et une fin à ce troisième lien-là pour partir de la Transcanadienne à Lévis pour se rendre à quelque part à Québec. Il n'y en a aucun qui se peut. Ça, c'est quand on évite de sacrer un énorme pont en plein milieu ou du moins sur le bord de l'île d'Orléans parce que le fleuve ne se peut pas à cet endroit-là. Et justement, dans les résultats que la CDPQ Infra avait envoyés, tout ce qui était à l'est ou à peu près n'était pas viable. Le seul lien qu'eux étaient capables de trouver qui se pourrait un temps soit peu, c'était de faire un troisième pont à côté des deux autres. Fait essentiellement, il n'y a pas de plan. Donc, la nouvelle option ou les nouvelles options qui étaient évaluées pour faire un pont à l'est parce que ça nous tente, l'avait dit François Legault en ressortant encore une fois des boulamites le projet, c'était d'aller de l'autoroute 40, donc on est à Beauport, traverser le fleuve en plein milieu tout en espérant contourner Sainte-Pétronille pour ressortir de l'autre côté à Lévis, sur le bord de l'autoroute 20 ou du moins dans les champs près du boulevard Lallemand, donc vraiment à l'extrême complètement de Lévis, là, qu'on est quasiment rendu, on change quasiment de région rendu là. Et l'autre option, c'était le boulevard des Chutes. Donc, au terme du boulevard des Chutes, on partait ce tracé-là qui se rendait, lui aussi, de l'autre côté du boulevard de Lallemand, en débouchant sur l'autoroute 20. Fait que, est-ce que ça passe par-dessus, par-en dessous? C'est pas clair. Comment ils vont faire ça? C'est pas clair, mais c'était des espèces de tracés qui ont été prévus. Au moins 9 propositions même, au grand total, de corridors, de liens interrives ont été analysés. Les 2 scénarios potentiels, voilà, qui sont ressortis en étant les plus préférés. Pas nécessairement les plus réalisables, les plus préférés. Celui de l'autoroute 40, celui du boulevard des Chutes du côté de Québec. Le P4 prévoit voilà, ce tracé de l'autoroute 20 à l'est de l'autoroute Lallemand sur la rive sud, avec une sortie sur l'autoroute Dufresne-Montmorency à la hauteur du boulevard des Chutes sur la rive nord pour l'autre. Donc pour celui-là, le second, c'est une entrée similaire sur la rive des Sud, mais propose une sortie au niveau de l'échangeur des autoroutes Dufresne-Montmorency et Félix-Leclerc sur la rive nord. Dans les 2 cas, la structure aurait un dégagement au-dessus de l'eau, donc ce serait des ponts de 74 mètres, pour permettre le passage de plus gros navires de croisière comme le Queen Mary 2, ce qui nécessiterait d'importantes pentes et une chaussée qui culminerait à une hauteur de 100 mètres au-dessus du fleuve. Donc, des côtes tellement à pic que tu te dis, mettons, l'hiver, tu veux pas descendre ça en char. En plus, au-dessus du fleuve, fait qu'il doit faire encore plus frette. Ça risque d'être gelé à l'année longue parce que ces pentes-là doivent laisser passer les Moses de bateaux quand ils viennent au Québec. Donc, dans les évaluations de compatibilité des 2 scénarios de ces ponts-là à l'est du centre-ville, ça échoue à peu près dans toutes les catégories pour ce que normalement le ministère des Transports voudrait mettre de l'avant. Comme la conservation des écosystèmes et des ressources d'eau. On passe bord en bord de terres agricoles du bord de Lévis. Protection du territoire agricole. Il y a une ligne spéciale pour ça. C'est évidemment pas compatible. Résilience des communautés au changement climatique. Mais non, c'est des ponts pour faire traverser des chars. Fait que c'est pas du tout écologique. Consolidation des milieux de vie existants et la planification des transports favorisant la mobilité durable. On n'est pas encore à parler d'autobus là-dessus, même si c'est comme l'espèce de nouveau dada des pas environnementalistes, d'avoir des autobus électriques. Il n'y a pas de nouvelles sur des lignes réservées aux autobus comme on voulait le faire un moment donné dans le bitube. On se souviendra, c'est 2 tunnels sous l'eau qui devaient passer entre Lévis et Québec avec probablement encore des pentes ultra abruptes, mais dans l'autre sens, en creusant dans la terre. Le respect des caractéristiques distinctives du paysage et des milieux de vie. Ben non, on sac 2 ponts en plein milieu du fleuve, donc adieu la beauté des décors. Tout ce qui est, donc tout ça était évidemment rejeté avec ces 2 plans-là. La seule vraie chose qui pouvait être un peu valorisée, la favoriser sur l'attractivité et le dynamisme économique des communautés. Parce que le grand cheval de bataille, c'est de dire que ça fait une économie de temps incroyable. On n'a pas besoin de faire un détour de 45 minutes en passant sur les ponts à l'extrême de Lévis quand on est d'un autre bord de Lévis. Mais comme ça a été démontré en plus par l'organisme de confiance de François Legault et Geneviève Guilbeault, qui est la CDPQ Infra, c'est pour sauver 5 minutes de trafic. Et encore là, ce trafic-là se déplace. Évidemment que si tous les gens qui devaient traverser l'entièreté de Lévis pour se rendre à Québec, ben ils vont tous se ramasser en traversant sur ce pont-là. Et les quelques-uns qui vont vouloir descendre de Saguenay pour s'en aller en Gaspésie ou s'en aller dans le Bas-Saint-Laurent vont sauver de se traverser l'entièreté de Québec en prenant ce pont-là. Mais tu sais, y a-tu tant de monde que ça qui font le trajet Saguenay-Gaspésie pour avoir besoin de sauver 10 minutes quand tu passes pendant le trafic de Québec, parce qu'il y a toujours moyen de passer une heure avant ou une heure après pour se sauver ces trafics-là dû au fait que les gens retournent de chez soi après le travail? Ben, planifiez mieux vos déplacements tant qu'à ça. Ça va nous sauver 10 milliards à injecter dans des ponts qui vont tellement être trop hauts pour laisser passer des bateaux parce que le fleuve est en fleuve. Les piliers de tout ça. Les piliers de tout ça, parce qu'on le dit jamais assez, mais le fleuve, c'est profond. Et surtout à l'est de Québec, le fleuve est extrêmement profond. Donc, pour réussir à couler des piliers dans le fond de tout ça, il y a eu beaucoup de scénarios qui ont été abandonnés parce qu'on ne sait même pas quelle est la profondeur de ces eaux-là pour être capable d'asseoir le pont sur quelque chose qui ferait en sorte qu'il tiendrait. Fait que tout ça est complètement irréaliste. Le propre ministère du transport ou de la voirie, ça dépend comment Geneviève affile, n'est pas d'accord avec le troisième lien. Et malgré tout, François Legault et Geneviève Guilbeault foncent dans le mur en disant que c'est nécessaire et que c'est un must obligatoire pour la région de Québec. On verra bien ce qu'il y en est, mais pour l'instant, ça reste encore utopique, voire magique d'être capable de penser que le troisième lien va se pouvoir amender. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. L'information, nous deux, sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Ils étaient 12 dans ce cas-ci. J'en ai parlé en ouverture de l'émission de tout à l'heure. 12 des 13 premiers ministres des territoires et provinces canadiennes étaient tous à Washington cette semaine pour rencontrer quelqu'un de l'administration Trump pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de Donald, en tout cas. Ils ont fait cette tentative-là et essentiellement, ben, ils se sont fait dire qu'il y aura des tarifs et que vous allez être le 51e État, donc ça était fructueux à moitié. Mais l'image était forte quand même, de tous les avoir les uns à côté des autres. Rare union canadienne, si elle en est une. Et malheureusement, ben, c'est déjà assombri parce que ça a coûté une fortune se rendre à Washington, ne serait-ce que pour avoir un contact, pour parler à quelqu'un de l'administration Trump. Les premiers ministres et premières ministres auraient dû débourser un montant de 85 000 $ US, soit 120 800 $ canadiens pour ne serait-ce que faire confiance à une agence de lobbying américain qui se nomme la Checkmate Government Relations, qui serait détenue par des gens qui connaissent bien les fils de Donald Trump. Donc, ce serait de cette manière-là que les premiers ministres et premières ministres ont eu un contact avec Washington. Selon les ententes, les frais de base requis pour les services de la firme Checkmate Government Relations sont de 85 000 US par mois. Rien de moins. Le contrat aurait été rédigé pour seulement un mois, donc un seul paiement. Mais techniquement, on aurait, en date du, c'était du 4 février, 3 février, entre McDowell et Laura Conner, secrétaire du conseil de la Fédération. McDowell est le propriétaire de cette compagnie-là, Chess Charles McDowell, associé dans le film Checkmate, un ami proche de Trump Jr. et des compagnons de chasse, semble-t-il. En tout cas, premier ministre du Yukon, Raj Pillali, qui a suggéré le nom de McDowell à ses homologues canadiens dans un point de presse à Washington. Pillali a affirmé jeudi avoir fait la connaissance du lobbyiste à la suite d'une rencontre avec le fils du président Trump en décembre dernier en Caroline du Nord. Le document a été signé voilà, le 3 février entre Chess et Loretta O'Connor, représentante du Conseil de la Fédération. À en croire le document en question, ces frais ont été payés par le secrétariat du Conseil de la Fédération qui est financé par les premiers ministres des provinces et des territoires au prorata de leur population respective. Donc, ce 85 000-là, US, c'est seulement pour avoir eu accès à un contact proche de l'affaire. Et ça, c'est sans compter toutes les dépenses que les premiers ministres et premières ministres individuellement vont avoir engendrées pour leur sécurité respective. Fait qu'une bonne facture pour juste se faire dire voilà que vous serez le 51e État, c'est un peu cher payé. Compte tenu des risques associés à des possibles tarifs et de l'importance du partenariat entre Canada et États-Unis, l'embauche de ce cabinet à ce stade était essentielle pour favoriser une meilleure défense des intérêts du Canada auprès des représentants américains. Loretta O'Connor, directrice générale du secrétariat du Conseil de la Fédération, avait dit à ce propos. Selon le document de l'entente, McDowell s'engage de son côté à fournir au premier ministre canadien des services de relations gouvernementales en engageant et en facilitant les communications avec les responsables et les décideurs américains. Donc, essentiellement, de demander à Donald Trump Jr. De parler aux gars responsables du dossier. La firme ne fait toutefois aucune promesse ou garantie concernant les résultats de ses services. On les a eus, les résultats. Ils s'en foutent. Des experts du milieu du lobbyisme consultés par Radio-Canada soulignent que les tarifs déboursés par les premiers ministres ne sont pas déraisonnables compte tenu de l'accès qu'ils ont pu avoir. Ils ont passé une heure à la Maison-Blanche mercredi cette semaine pour discuter des tarifs douaniers de sécurité frontalière et de fentanyl avec deux conseillers proches de Donald Trump. Fait qu'ils en ont eu deux pour le prix d'un. Seulement 42 500 par personne. Non, 30. Mon Dieu, mes maths sont loin ce matin. Ouais, 42. 84 en 2, 42. 42,5 000 US qui ont été dépensés pour rencontrer deux personnes. Et essentiellement, ils se sont fait dire que de toute façon, ça ne changeait rien. Trump a fait son idée. Vous allez être un État des États-Unis. Fait que voilà, ça a été une grosse dépense, mais l'image était belle. Si on peut leur donner ça, visuellement, c'était très joli. Mais essentiellement, c'est pas passé grand-chose. Donc voilà, c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission. En cette fin de semaine de la Saint-Valentin, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même, sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. À la semaine prochaine. Salut!